Bof, bande originale de film. Bof, l'émission des images qu'on écoute. Une semaine sur deux, mercredi à 10h ou vendredi à 19h. Bonjour et bienvenue sur MDM pour le deuxième numéro de Bof, bande originale de film, l'émission des images qui s'écoutent. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur deux musiques de film, une musique de série Schnock et une musique de pub. Commençons par la première musique de film. Il s'agit d'un film qui a fêté ses 20 ans en 2024, Les Choristes de Christophe Baratier, dont c'était alors en 2004 le premier film. On l'écoute nous raconter la genèse de tout ça.
Je me suis souvenu d'un film que j'avais vu tout jeune qui s'appelle La Cage aux Rossignols de Jean Dréville, qui parlait d'une petite chorale dans un pensionnat. À l'heure de penser à faire mon premier film, je me suis dit finalement je vais m'inspirer de ça et je vais rapporter là-dessus ma propre histoire, parce que moi j'étais un soprano enfant et j'étais un peu séparé de mes parents à une certaine époque, non pas parce qu'ils m'avaient abandonné, mais parce qu'ils étaient tous les deux comédiens, ils tournaient beaucoup. Et voilà, ça a donné Les Choristes dans cette espèce de, on va dire, de remake peut-être, ou plutôt réadaptation d'un film.
Comme Christophe Baratier vient de le dire lui-même, Les Choristes est donc le remake d'un film de Jean Dréville, sorti en 1945, La Cage aux Rossignols. Ce film raconte l'histoire de Clément Mathieu, un surveillant qui fait ses premiers pas dans un pensionnat pour adolescents difficiles. À l'époque, on appelait ça une maison de correction. Ce surveillant, joué par une grande vedette de cette période, Noël Noël, a l'idée de monter une chorale pour tenter de canaliser l'énergie débordante de ces jeunes.
Je vous présente Monsieur Clément Mathieu, notre surveillant qui fait chanter ses chers enfants.
Mes compliments, monsieur. Nous suivons avec beaucoup d'intérêt les méthodes d'humaine compréhension de monsieur Rachin.
Je suis très heureux, en effet, madame, d'apporter mon aide à un supérieur aussi compréhensif.
Oui, ben faites-les chanter.
Qui est ce petit garçon qui tient à l'écart? C'est un puni.
Ah, celui-là, il est à l'écart parce que c'est notre vedette. C'est la plus jolie voix de la chorale.
Il a une bonne petite tête.
Oui, une tête d'ange. Permettez.
Presque 60 ans plus tard, au début des années 2000, Christophe Baratier reprend donc cette belle idée de scénario à son compte. Mais pour parvenir à monter Les Choristes, il doit faire face à la réticence des producteurs qui trouvent le projet un peu passéiste.
C'est vrai qu'il y avait aussi un petit peu une espèce de suspicion, de nostalgie qui m'étonnait un peu à l'époque, parce que j'étais pas du tout nostalgique des années 40, absolument pas. Même à la limite, on a parlé un petit peu même de films Raffarin, voire Pétainiste, ce qui était un peu pour moi, qui est toujours le cœur quand même qui penche à gauche. Tout à coup, on me traitait de réactionnaire, j'étais réactionnaire sans le savoir.
Finalement, le film Les Choristes se monte, et pour le casting, Baratier choisit Gérard Jugnot pour jouer le surveillant, Cadmerad pour l'un des profs du pensionnat et François Berléand pour jouer le directeur Bornet. Le tournage a lieu en Auvergne à l'été 2003, mais là non plus rien n'est simple, surtout quand il s'agit de faire croire que l'histoire se passe en hiver alors qu'il fait 40 degrés à l'ombre.
Le tournage avait été très difficile parce que c'était la canicule, parce que Christophe, c'était son premier film, il y avait une équipe qui a été changée parce que ça marchait pas. Enfin, c'était très compliqué, mais à la finale, il a repris vraiment ça très très bien, Baratier.
Pour compliquer le tout, il faut aussi gérer 60 enfants sur le tournage. Heureusement, Christophe Baratier parvient tout de même à les faire jouer comme il l'entend et à organiser une belle complicité avec tous les adultes présents, notamment François Berléand et Gérard Jugnot. Reportage en 2003 sur le plateau du tournage.
Ils sont sympas pour l'instant, je les ai rencontrés au maquillage. J'ai vu Cad et Junio, mais j'ai pas vu François Berléand.
Ce qui est formidable avec les mômes, c'est qu'ils sont toujours très 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 justes. Beaucoup plus justes que beaucoup d'acteurs. Parce qu'il y a, voilà, une vérité qu'ils n'auront plus tard, mais qui en tout cas, là, ils sont bien meilleurs que nous, c'est sûr.
Le dénominateur commun, c'est qu'on joue. Et les enfants, ils jouent, ils savent ce que c'est que le jeu, puisque c'est leur vie. Et nous, vieux acteurs, il faut qu'on retrouve cette part d'enfance, qui est le jeu, qui est le côté on dirait que. Et quand lui, il joue à être Zorro, et ben il est Zorro, faut pas faire chier Zorro.
Mais le cœur de l'histoire du film, c'est tout de même la création d'une chorale d'enfants. Et pour ça, il faut écrire de la musique. Mais quelle musique, finalement? Là encore, Baratier doit répondre à de nombreuses interrogations.
Les arguments que je recevais, on me disait « Oui, mais ça, la musique, ce sera quoi ?» Je ne l'avais pas composé encore. Donc c'est difficile de dire « Ça sera très beau. Oui, mais ce sera quoi ?» Alors on m'a dit « Mais pourquoi ça ne se passe pas de nos jours, il ne fait pas du rap ?» Bon, il y a eu toutes ces tentatives-là. Je dois dire que c'est grâce surtout à Gérard Jugnot, à son engagement, que j'ai pu le convaincre. Il trouvait tout ça un peu vieillot, lui aussi, tout ça. Je disais « Mais oui, mais vieillot, ça dépend si c'est vieillot daté ou si c'est vieillot plus moderne qu'on le croit. » Parce que finalement, en faisant des musiques comme on les a faites, des musiques qui n'appartiennent pas à un genre particulier, finalement, ces musiques intemporelles, on s'aperçoit qu'elles ne seront jamais démodées, puisque forcément, elles sont attachées à aucune période.
Pour écrire la musique du film Les Choristes, Christophe Baratier, qui a fait des études de musique assez poussées et qui était lui-même choriste étant enfant, fait appel à Bruno Coulet. Il s'associe notamment avec lui pour créer les refrains que chanteront les enfants et se charge lui-même d'écrire les paroles. Mais pour interpréter tout ça, en plus des enfants déjà membres d'écoles de musique locales, il lui faut trouver celui qui jouera le rôle principal dans la chorale.
Alors, il y avait des enfants figurants, je le savais, mais il y avait quand même à trouver, et ça je tenais vraiment à ce qu'on le trouve, un jeune qui chante vraiment. Oui. Bon, avec le doublage, maintenant, on aurait pu le faire. Mais je savais que si jamais le film connaissait un peu succès et qu'on avait dit « c'est pas lui qui chante vraiment », voilà. Et donc j'avais fait une recherche. Tous ceux-là qui viennent quasiment tous de Clermont-Ferrand, enfin de la région. Ah. En revanche, Jean-Baptiste Monnier, lui, je l'ai trouvé dans une chorale à Lyon, les petits chanteurs de Saint-Marc. Et je me souviens, on était avec Bruno Coulet, on a monté les escaliers. C'était vraiment à 2 mois du tournage. Je m'étais presque résolu à prendre quelqu'un d'autre. Et puis on a entendu cette voix-là et j'ai cadré avec mon caméscope, c'était Jean-Baptiste.
Le film Les Choristes sortira en 2004 et aura un succès considérable, vu en France par plus de 8,5 millions de spectateurs et 15 millions dans le monde. Mais c'est surtout la bande originale du film qui va rester dans l'oreille des gens, avec ses chansons pourtant un peu surannées. Cette BO générera la vente de plusieurs millions d'albums.
Quand j'ai pris les premières maquettes avec Médard, je chantais ça. Moi, je trouvais ça sympathique, sincèrement. Les paroles, je les ai toutes faites. Je ne vais pas en dire du mal, mais on est un peu limite dictionnaire de rimes, quand même, tout petit peu. Sauf qu'après, on ne sait pas pourquoi, mais ça échappe totalement au contexte et tout le monde oublie le caractère dans lequel c'est fait. Moi, je veux dire, quand Marc Lambroso, qui distribuait le disque, m'avait dit « Peut-être on vend 5-10 000 et que c'est arrivé à 4 millions d'albums », je ne comprenais pas bien. Enfin...
Et parmi ces chansons de la bande originale des Choristes, une surtout restera dans les mémoires, « Voix sur ton chemin ». D'un premier petit film passéiste, Les Choristes deviendront finalement un phénomène mondial. Ils seront nommés 8 fois au César 2005 et en remporteront 2, ceux du meilleur son et de la meilleure musique. Le film recevra en outre 12 de prix dans le monde entier pour 40 nominations et sera également nommé 2 fois aux Oscars, au titre du meilleur film étranger et de la meilleure chanson originale.
Non mais en plus, moi sincèrement, je vous dis la vérité, je pensais que j'avais fait un film sympathique. Sans plus, je ne pensais pas que ça prendrait cette ampleur-là, puis cette ampleur surtout internationale.
Et puis bon, c'est surtout le succès international du film qui est un truc de fou. On a quand même terminé aux Oscars. Ouais. Donc moi, je me suis retrouvé à Los Angeles en train de pisser à côté de Clint Eastwood. J'ai pris l'ascenseur avec Morgan Freeman, que des grands, très grands. Pacino et Ucana, comme Tom Cruise. Ils sont ou très grands ou très petits. C'est assez rigolo. Puis c'est quand même extravagant de se retrouver. Enfin, en plus, moi, ça m'est arrivé à plus de 50 piges, donc ça ne m'a pas gonflé la tête plus que ça. Quoi. Mais c'était vraiment assez magique. Quoi.
Aux Oscars 2005 à Hollywood, Les Choristes concourent notamment pour le prix de la meilleure chanson originale. Et c'est Beyoncé qui se fend de l'interprétation de « Voix sur ton chemin » en français, s'il vous plaît.
Voix sur ton chemin, gamins oubliés, écarés, ton allou la main pour les mener vers d'autres là, tes mains. De gloire,
Même s'il n'a pas remporté l'Oscar, ce titre est resté le symbole du film. Et il a été repris depuis un peu à toutes les sauces. En 2023, c'est le DJ allemand Bennett qui l'a récupéré pour produire un morceau techno un peu bourrin à mon goût. Un extrait. Le 20e anniversaire du film Les Choristes a donné lieu en 2024 à diverses manifestations ou rediffusions. Parmi elles, une tournée de ciné-concerts initiée par le Yellow Sox Orchestra qui s'est déroulée dans toute la France cet automne. Mais en 2014, pour les 10 ans du film Les Choristes, c'est Voracles, un DJ un peu plus classe que Bennett, qui s'était attelé à une reprise électro de Voix sur ton chemin. À mon sens, ceux qui ont eu la chance de voir Voracles à Luxeuil à la tête d'un orchestre symphonique lors de Musical Rue 2024 savent désormais ce qu'électro élégante veut dire. Un petit extrait de Cœur de la nuit, la version de Voix sur ton chemin imaginée par Voracles en 2014. Off numéro 2 avec Dr Schnock sur MDM, deuxième partie. Pour cette deuxième période, je vous propose trois clins d'œil musicaux en lien avec l'actualité récente, avec une musique de série, une musique de film et une musique de pub. Premier clin d'œil à l'actualité avec Manu Chao. Tout d'abord, une bande dessinée consacrée à Manu Chao est sortie fin août 2024. C'est le dessinateur Gaston qui vous propose de suivre en image la vie et le parcours de l'auteur-compositeur Globetrotter que l'on connaît bien. Une BD éditée par ID+. Parallèlement, 17 ans après son dernier album studio, Manu Chao a sorti fin septembre 2024 un nouvel opus intitulé Viva Tu.
Cada día que me enamoro.
Tu la vecina del patio. Yo nunca te dejaría. Tu mi vecina de arriba. Por ti. Yo me descabrizaría. Viva tú, viva tú, la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, la Marelu, viva tú.
Y tú, y tú, y tú, viva tú.
Y le 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 le.
Après son dernier album studio de 2007, Manu Chao avait tout de même sorti en 2009 un album live qui retraçait sa tournée Tombola Tour. Cet album live avait été enregistré dans les arènes de Bayonne et votre serviteur avait eu la chance d'y assister. À la fin du concert, Manu Chao terminait par un ultime pied de nez au système en faisant reprendre par la foule un refrain qu'il appelait « Pinocchio ». Celui-ci était censé dénoncer de manière festive tous les menteurs qui nous gouvernent.
Avant de partir, une dernière petite dédicace à tous ces politiciens professionnels qui ne savent que mentir. Pinocchio!
Alors pourquoi cet air et pourquoi y associer Pinocchio ? Eh bien pour moi qui ai sensiblement le même âge que Manu Chao, le message était clair. Cette musique fait référence à un feuilleton italien en 6 épisodes, aujourd'hui on dirait une mini-série, datant de 1972 et diffusé à la télévision française en 1975, Les Aventures de Pinocchio. Ce feuilleton était l'œuvre du grand cinéaste italien Luigi Comencini, d'après le roman initial Pinocchio de Carlo Collodi, bien évidemment. Ce n'était pas une série animée, mais 6 films interprétés par des acteurs en chair et en os, parmi lesquels Nino Manfredi et Gina Lollobrigida. La musique originale de la série est l'œuvre de Fiorenzo Carpi. Elle soulignait à merveille le côté poignant de l'histoire de Pinocchio et illustrait parfaitement ce talent qu'avaient les cinéastes italiens de l'époque pour faire rire et pleurer en même temps. J'imagine que comme tous les petits garçons que nous étions à cet âge-là, Manu Chao a été marqué comme moi dans son enfance par ce récit et cette musique, au point d'avoir envie de la restituer à sa façon en concert 35 ans plus tard. Deuxième allusion à l'actualité récente avec la tempête qui a une fois de plus dévasté le sud des États-Unis en septembre 2024. Une zone de la planète malheureusement sujette comme beaucoup d'autres à ce genre de malheur récurrent. Il y a quelques années, était sorti un film remarquable qui se situe dans ce contexte de tempête en Louisiane. Ce film, c'est Beasts of the Southern Wild, les bêtes du sud sauvage. C'est un film indépendant américain de Ben Zeitlin, sorti en 2012. Présenté au festival du film indépendant de Sundance en 2012, il y avait remporté le grand prix du jury. Il a aussi remporté la caméra d'or du premier film au festival de Cannes 2012, le grand prix du festival de Deauville la même année et une multitude de prix dans le monde entier. Il a ensuite été nommé 4 fois aux Oscars de 2013, en tant que meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice et meilleur scénario. Et s'il n'a ramené aucun trophée, il y a tout de même, en tant que film indépendant, généré une sacrée sensation. La musique du film « Les bêtes du Sud sauvage » a été composée par Dan Romer, associé au réalisateur Ben Zeitlin. Dans la bande originale, ils ont confié notamment l'un des morceaux à The Lost Bayou Ramblers, les randonneurs perdus du bayou, un groupe de musique traditionnelle cajun de Louisiane. Le film « Les bêtes du Sud sauvage » raconte l'histoire d'une petite fille et de son père qui vivent dans le bayou de Louisiane dans une extrême pauvreté au sein d'un hameau de cabanes délabrées, inondables, où vivent avec eux d'autres abandonnés de la société américaine. Déjà miséreux, une nouvelle tempête va se charger de les accabler encore davantage, les forçant à abandonner le peu qu'ils avaient. L'héroïne du film est donc cette petite fille de 6 ans, débrouillarde et au caractère déjà bien affirmé, qui va trouver l'énergie d'avancer dans sa jeune vie, quoi qu'il advienne, pour porter un message d'espoir au milieu de cette vie de misère. Troisième et dernier clin d'œil pour aujourd'hui à l'actualité récente. Bien que publiphobe notoire, je suis tombé récemment par hasard sur une publicité pour du pain de mie industriel. Pour vanter les mérites de son produit, la marque en question s'est associée depuis 2020 avec une récente candidate au tremplin The Voice, que je ne connaissais évidemment pas, Margot Joubert. Pour illustrer la publicité en question, la jeune Margot réinterprète de manière un peu trop classique à mon goût, la chanson « La tendresse ».
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas.
La tendresse est une chanson de Noël Roux et Hubert Giraud écrite en 1963. Sa rythmique originelle est une valse lente sud-américaine. Et son premier interprète, à mon sens plus talentueux que la jeune Margot, était Bourvil.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question.
Cette chanson a fait l'objet au cours du temps de très nombreuses reprises par de multiples interprètes, dont mes préférés sont sans doute ceux du groupe Debout sur le Zin. Mais j'ai eu récemment l'occasion de découvrir, grâce à Digital Time sur MDM, une reprise bienvenue et enfin originale de La Tendresse, celle du groupe d'indie pop français Evergreen. Je vous en livre ici un extrait pour terminer, en regrettant que la publicité pour le pain de mie n'ait pas choisi plutôt comme illustration cette version Evergreen de La Tendresse, à mon sens bien plus réussie.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. ses faiblesses, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps nous paraît long.
Bande originale de film. Bof, l'émission des images qu'on écoute. Bof, également en podcast sur www.radio-mdm.fr.